l'un des côtés les plus merveilleux de cette révélation de Dieu dans la personne de Christ, dans toute cette révélation que Dieu fait lui-même, c'est à l'égard des hommes, pas à l'égard des anges. Combien vont être attendus, c'est à notre égard. C'est à l'égard des hommes que Dieu se révèle ainsi. Et les anges, même les principautés, les autorités, sont amenés à voir toute la sagesse de Dieu dans l'assemblée. Quelle révélation de Dieu! Combien ces choses devraient avoir du prix pour nous et devraient remplir notre cœur. Et combien nous pourrions alors poursuivre ces vertus dont on nous a parlé. Et combien nous réaliserons et nous attendrions la révélation d'un tel Christ qui s'est acquis tout par l'œuvre de la croix. Parce que Christ possède les choses créées pour trois motifs. Il les possède parce qu'il les a créées lui-même. Il les possède parce qu'il est le Fils comme héritier. Et il les possède comme les ayant rachetés par son œuvre à la croix, parce que par l'homme, tout avait été vendu à Satan. C'est une telle révélation des pensées de Dieu, combien cela doit toucher nos cœurs, éclairer nos consciences, et nous attacher ainsi à ces vérités telles qu'elles sont manifestes, montrées et révélées ici. Combien sera magnifique et beau ces temps où Christ enfin prendra en puissance ce qui lui appartient. Car Dieu veut. Dieu fait tout pour son Fils. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu fait tout pour la gloire de son Fils. La suprême pensée de Dieu, c'est son Fils. Alors Dieu veut que justement celui qui, dans une obéissance parfaite, dans un abaissement profond et insondable, dont l'amour pour son Père a été le mépriser, le rejeter, celui pour lequel on n'avait aucune estime, et qui était en effet comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Je ne parle pas là des œuvres, des trois heures d'expiation, c'est autre chose. C'est encore d'autres. Eh bien, Dieu veut que son Christ, qui, dans ses jours de sa chair, a été ainsi méprisé, veut qu'un jour toute chair se ploie devant lui et reconnaisse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ces choses sont révélées. Et quand nous en jouissons, vers qui nous regardons? Vers Jésus. Et vers quoi tendent nos pensées, nos cœurs? Vers le ciel, vers la gloire où nous aurons enfin tout en perfection.
Nous venons d'entendre que deux grandes raisons sont données à Timothée pour garder ce commandement sans tâche, irrépréhensible. D'une part, la toute-puissance de Dieu et d'autre part, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous ajouter à cette pensée que un deuxième but, au fond, est proposé à Timothée, c'est de persévérer dans ce chemin de l'obéissance, de la soumission à un tel commandement. Persévérer, nous l'avons dans ces mots, sans tâche irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici qu'à la fin de cet épître, un tel événement est mentionné, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas tant le fait que notre Seigneur va venir selon l'espérance qui nous a été donnée par pure grâce, nous attendons le retour du Seigneur, vérité infiniment précieuse, mais quand il est parlé de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas seulement la pensée de la grâce de Dieu qui est incluse dans cette pensée, mais la responsabilité du croyant. Notre responsabilité qui sera un jour déployée dans la pleine lumière de Dieu se rattache précisément à ce grand fait, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. elle n'est pas présentée, cette apparition, comme c'est bien l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'Esprit de Dieu insiste sur ce fait. Quelle sera montrée? Laquelle, le bien-aimé, heureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir. Et un tel tableau, infiniment glorieux, se termine par cette doxologie de la fin du verset 16, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Ainsi donc, la grandeur de Dieu nous est présentée à trois points de vue. Tout d'abord, la souveraineté de Dieu. Il est le bienheureux et seul souverain, il n'y en a pas deux, le seul souverain. Deuxième grand fait, lui seul possède l'immortalité. L'homme n'est pas immortel, il n'y en a aucun qui soit immortel, le croyant n'est pas immortel, mais un jour, il sera revêtu d'immortalité, ce qui est une autre pensée. Et enfin, troisième grand fait que Dieu est invisible. Il habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir. La souveraineté de Dieu, cette immortalité que lui seul possède, le fait qu'il est invisible, voilà comment la personnalité de Dieu nous est présentée et déployée devant nous. C'est lui, c'est un tel Dieu qui un jour, autant propre, autant convenable, montrera l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un tel tableau de la gloire de Dieu ne met pas en évidence la grandeur d'un tel événement, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ?
Le soleil se lève et apparaît au-dessus de l'horizon. Dès lors, il demeure visible. Il en est ainsi de l'apparition du Seigneur Jésus, caché jusqu'à un moment donné. Il est rendu visible à ce moment et demeure tel. L'apparition, la manifestation publique glorieuse du Seigneur. Et on a dit, il appartient à Dieu de montrer dans tout son éclat la gloire de son Fils là où il a été outragé et déshonoré. Car nous n'oublions pas que c'est sur la montagne des Oliviers, à deux pas de l'endroit où sa croix a été dressée, là où il est monté au ciel, qu'il apparaît et qu'il pose ses pieds sur cette montagne. Mais non plus dans l'abaissement et dans l'humiliation, mais dans tout l'éclat de sa gloire. Son visage comme le soleil quand il brille dans toute sa force, ses yeux comme des flammes de feu, ainsi que le montre Apocalypse 1. Il y a un passage remarquable où la venue et l'apparition sont cités ensemble. C'est dans la seconde aux Thessaloniciens, car évidemment, l'apparition dont il vient d'être question, c'est la manifestation publique du Seigneur. C'est le deuxième acte de sa venue. Autrement dit, comme nos frères l'ont appelé, c'est l'épiphanie du Seigneur. Mais le premier acte, ou la parousie du Seigneur, est un acte de grâce qui concerne seulement les croyants. La manifestation publique, l'apparition, est un acte de jugement. Le premier acte de la venue s'effectue dans les airs, où le Seigneur nous appelle, d'où nous partons au ciel avec tous ceux qui sont ressuscités les premiers. C'est un acte qui ne concerne que les croyants, sans doute invisible par le monde, tandis que l'apparition est comme le soleil quand il se lève, apparaissant au-dessus de l'horizon et demeurant visible. 2 Thessaloniciens 2, nous avons cette expression que l'apôtre emploie, l'apparition de sa venue dans le verset 8. Il s'agit de la destruction de l'inique, de l'antichrist, que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche au milieu du verset 8 et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, c'est-à-dire lors du deuxième acte de sa venue, toujours en relation en effet avec la responsabilité du croyant, qu'il montrera au temps propre. Et nous avons été frappés par l'expression « au temps propre ». Comme on l'a dit aussi, Dieu n'oublie jamais, cela vient d'être rappelé, Dieu n'oublie jamais ce qui concerne son conseil à l'égard de Christ, dont il veut manifester la gloire dans le monde, sur le monde, héritier de toutes choses, parce qu'il est le Fils, par conséquent héritier, parce qu'il est le Créateur, cela vient d'être dit, et aussi parce qu'il est le Fils de l'homme. Épître aux Hébreux, à ce titre, ayant racheté l'héritage, il lui appartient. Et ayant été mis à mort, outragé, ressuscité, c'est à lui que Dieu a donné l'autorité sur toutes choses, au ciel comme sur la terre. Et Dieu n'oublie pas ce but qu'il a devant lui. Et à travers l'incohérence apparente des événements, à travers des événements qui paraissent extérieurement infirmés, le but que nous précisons, que la parole de Dieu précise, mais les chars des nations roulent dans une vallée entre des montagnes d'airain, et Dieu amènera en son temps, au temps propre, ce qu'il s'est proposé, c'est-à-dire la manifestation publique de la gloire de Christ, qui règnera sur toute chose avec son épouse, au temps propre. Dans l'Épître aux Galates, nous avons une expression « quand l'accomplissement du temps fut venu ». Galates 4, verset 4. Pensons qu'il y a cette expression avec ce temps bien précis, bien déterminé par Dieu. « Quand l'accomplissement du temps fut venu ». À ce moment-là, le Seigneur se lève. Seigneur se présente et dit, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, me voici, je viens. Quand l'accomplissement du temps fut venu, dans les pensées de Dieu, dans les voies de Dieu, il y avait un temps, à la fin de ces jours-là, dit l'Épître aux Hébreux, Christ est venu au temps propre, à l'accomplissement du temps que Dieu avait compté. Et Daniel nous donne d'ailleurs une mesure extrêmement précise, car pour le rappeler en un mot, on sait que lorsque le Seigneur se présente à Jérusalem, peu de jours avant d'être mis en croix, il y a exactement le temps que le prophète Daniel avait fixé. Jour pour jour, il y a le nombre de jours qui correspond à 69 semaines d'années prophétiques. 69 fois 360 jours, 69 fois 7 fois 360. Et les frères qui ont pu se pencher sur ces calculs difficiles peuvent nous dire, pour notre émerveillement, peut-il en être autrement, que jour pour jour, le Seigneur entre à Jérusalem à l'accomplissement du temps, quand l'accomplissement du temps fut venu. Première chose, Galates 4. Seigneur dit, en entrant dans son ministère, le temps est accompli. Marc 1, verset 15. Repentez-vous, croyez à l'Évangile. Le temps est accompli, c'est-à-dire le temps fixé par Dieu. Dans Jean 7, le Seigneur dira à ses frères, à ses contemporains, mon temps n'est pas encore venu. Il s'agissait du ministère que le Seigneur devait encore accomplir, et ses frères auraient souhaité que le Seigneur se manifeste publiquement. Le Seigneur dit, mon temps n'est pas encore venu. Le temps, précisément, de sa manifestation glorieuse. Mais que devait précéder son heure? Père, l'heure est venue. Mon heure, dans l'Évangile selon Jean, c'est la croix. Mon temps n'est pas encore venu. Dans Romains 5, au verset 6, il est question du temps convenable. Au temps convenable, Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour nous sauver. Nous avons cette expression bien connue, mais remarquable, le temps convenable. Romains 5, verset 6, car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour nous. L'heure de la croix, c'est le temps convenable. Cette heure de la croix, le temps convenable, est suivie du temps agréable. En vertu de l'heure de la croix, pouvons prêcher maintenant que c'est le temps agréable, c'est l'année de la faveur de l'Éternel. Le temps est agréable parce que la grâce de Dieu est présentée à tous les hommes. 1 Timothée 6, maintenant, au temps propre, et il ne sera pas différé. La manifestation publique du Seigneur sera vue dans tout son éclat et sera suivie du temps que la parole de Dieu appelle le rétablissement de toutes choses. Au temps du rétablissement de toutes choses, le glorieux règne commence.
Que Dieu a arrêté toutes ces choses, les a fixées avant que le temps fût. Rien ne peut arrêter l'accomplissement exact de tout ce que Dieu a arrêté. Rien. Mais cette révélation de Dieu, cette sagesse de Dieu, la profondeur de ses pensées, telles qu'elles nous sont révélées en Christ, doivent trouver de l'écho dans nos cœurs. Ce n'est pas, être un effet d'intelligence ou de connaissance. Ça doit réveiller dans nos cœurs une telle révélation, de telles pensées doivent réveiller dans nos cœurs de profondes affections pour le bien-être. Si Dieu nous fait une telle révélation, c'est qu'il veut nous amener, nous des pauvres créatures, nous amener à jouir, ce sera là le bonheur suprême, à jouir avec lui de tout ce qu'il a trouvé dans celui qui, un jour au temps convenable, s'est présenté pour faire toute sa volonté. Et nous pourrons ainsi nous réjouir dans ces choses. C'est remarquable de voir comment la fin de l'Ancien Testament se termine. Par le soleil de justice. C'est l'apparition de Christ. Lui qui apportera la santé dans ses rayons. Quelle bénédiction! Mais Christ ne prendra pas le monde tel qu'il est. Ah non! Ah non! Il le purifiera par les jugements terribles. C'est pas le christianisme qui va changer le monde. L'œuvre de l'Esprit à l'heure actuelle, nous l'oublions jamais. C'est pour former l'Église. Et tous les rachetés, tous les âmes qui sont appelées, elles sont pour le ciel. Pas pour la terre, elles sont pour le ciel. Elles sont pour le ciel. Et alors, nous avons ici, justement, le Seigneur purifiera ce monde par de terribles jugements. Nous avons l'Apocalypse, nous le savons très bien. Et alors, il prendra ensuite possession de ce qui lui appartient. Ça sera le soleil de justice. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Enfin, la paix et la justice régneront. Et les bases de son trône, ça sera la justice et le jugement. Mais la fin du Nouveau Testament, comment se termine-t-elle? Par l'étoile brillante du matin. Moi, je suis qui crie. Jésus, l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que c'est ça? Toutes les bénédictions célestes qui sont liées à cette révélation d'un Christ céleste et qui nous appartient à toujours. Et alors, c'est nos bénédictions qui sont d'une élévation dont nous n'avons guère hérité. Elles sont bien au-dessus des bénédictions terrestres. Et c'est pourquoi nous pouvons ainsi nous attacher au Seigneur. On comprend que dans ces deux actes de sa seconde venue, dans un sens, on comprend que le premier acte, c'est de venir chercher les siens, son épouse. Parce qu'il ne peut pas paraître et accomplir le second acte sans son épouse. Sans son épouse. Quand nous verrons et nous voyons dans le chapitre 19 les cieux s'ouvrirent et le roi des rois sortit en vainqueur pour prendre possession de ce qui lui appartient. Mais qu'est-ce qu'il y aura lieu, qu'est-ce qu'il y aura eu dans le ciel où on tressaillera de joie, où on se... Eh bien, les noces de l'agneau. Eh bien, nous faisons partie de l'Église.
Il y a en 2 Thessaloniciens 1 une pensée très riche à propos de l'apparition du Seigneur Jésus, donc son épiphanie. Il sera accompagné des anges de sa puissance en flammes de feu. Il est dit au verset 10 qu'il sera dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui l'ont cru. Toute la gloire est pour lui. Toute la gloire est pour lui. Même en somme, l'Église reflètera cette gloire. Elle reflètera, nous chantons quelquefois, l'éclat immaculé de ses perfections. Mais cela parle à nos consciences et à nos cœurs quand nous pensons à ce que nous sommes comme témoins ici-bas. Cela nous amène à nous jeter à genoux, à nous humilier. Mais tout ce qui sera vu dans les siens, dans ceux pour lesquels il a tant souffert, sera tout à sa gloire.
Le plus beau passage que nous ayons concernant la venue du Seigneur, deuxième acte de sa venue, accompagné de ses saints. Ce passage qui vient d'être lu, 2 Thessaloniciens 1, quand il sera admiré dans tous ceux qui auront cru, y a-t-il un passage plus élevé que celui-là pour nous montrer le Seigneur et les siens unis dans cette gloire magnifique, officielle, qui sera la sienne quand il viendra des cieux pour juger la terre et pour établir sa gloire. C'est un très beau passage qui ne manque pas de nous toucher chaque fois que nous le lisons, n'est-ce pas ? Alors, dans le passage que nous avons sous les yeux, il est donc parlé de ces caractères de Dieu, le Dieu souverain, le Dieu qui seul possède l'immortalité, le Dieu que personne ne peut voir, comme cela est souligné bien des fois dans l'Ancien Testament. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, alors il pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais en fait, ces caractères, qui sont essentiellement ceux de Dieu, sont ceux de notre Seigneur. Si nous prenons le premier, touchant sa souveraineté, n'avons-nous pas un même titre de gloire concernant le Seigneur Jésus lui-même ? Est-ce qu'au chapitre 17 de l'Apocalypse, il n'est pas parlé de l'agneau, duquel il est dit qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois ? Et quand notre Seigneur sort du ciel, qu'il est vu dans toute sa gloire judiciaire, au chapitre 19 de l'Apocalypse, 4 noms lui sont donnés, et le dernier de ces 4 noms, lui-même, car, est-il dit, il a ce nom écrit sur son vêtement et sur sa hanche, car lui-même est roi des rois et seigneur des seigneurs. On voit cette unité de nom glorieux entre Dieu lui-même et son Fils Jésus-Christ. Alors à un tel Dieu revient la louange, auquel soit honneur et force éternelle. Amen.
Nous étions fidèles. Si nous étions restés vraiment dans l'unité, c'est l'Évangile des gens qui nous dit. Le monde aurait cru. Hélas, au monde à tête. Mais rien n'est perdu de ce que Dieu a arrêté. Et dans le moment justement de cette apparition de la gloire de notre grand Dieu Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, avec les siens, parce qu'il ne peut pas apparaître sans les siens, ces saints qui auront reçu avant les récompenses. Parce que le tribunal de Christ aura eu lieu d'abord. Ils apparaîtront avec lui. Eh bien alors le monde les dit, connaître, c'est pas croire ici, puis c'est une manifestation. On n'est plus obligé de croire quand c'est une manifestation. Le monde connaîtra deux choses. Que tu m'as envoyé. C'est tout. Le fait que Christ a été envoyé sur la terre, c'est le résultat de ce fait, c'est tout cela, toutes ces gloires. Un peuple céleste et un peuple terrestre que tu m'as envoyé sur la terre, c'est son amour qui a envoyé Dieu, qui a envoyé le Seigneur, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et n'oublions pas que cet amour repose sur nous pour toujours. Dieu ne varie pas dans ses desseins, dans ses pensées, et il manifestera un jour cela d'une manière merveilleuse devant le monde. Devant le monde. Eh bien, combien nous devrions nous arrêter et être arrêtés souvent à la pensée que Dieu m'aime comme il a aimé son Fils.
Épître à Timothée, il y a en relation avec l'apparition quelque chose qui nous est proposé pour notre encouragement. On a dit que dans cette seconde épître, il y avait quatre ressources, une dans chaque chapitre. Et dans le dernier chapitre, la ressource dans les temps fâcheux, c'est la couronne de justice. Et lorsque Paul parle du combat de ceux qui courent dans la lice, dans 1 Corinthiens 9, il leur est proposé une couronne. Ceux qui, au temps de l'apôtre, couraient dans les arènes, vivaient de régime, mais ils couraient pour une récompense des hommes. Ici, nous avons, en liaison avec le combat et avec ceux qui aiment l'apparition, la couronne de justice. Et Paul peut dire, lui qui avait dit à Timothée « Combat le bon combat » dans la première épître, peut dire dans la seconde, au chapitre 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. » Expression qui revient plusieurs fois dans cette seconde épître, en rapport avec l'apparition dans ce jour-là. Et cette couronne de justice ne sera pas seulement décernée à moi, dit Paul, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Alors, quel encouragement nous est proposé là pour les temps fâcheux que nous vivons.
Que nous avons dans ces versets 14, 15 et 16 se termine donc par une doxologie. Qu'est-ce qu'une doxologie ? Il faut nous entendre sur la définition de ce mot que les hommes dans le monde religieux emploient fréquemment. Ce mot est un mot grec, parole ou discours de gloire, doxologie, plus exactement parole de gloire. Une doxologie est une louange exprimée par des croyants et en peu de mots dont la teneur est pratiquement semblable. Et ces doxologies, nous les trouvons dans les épîtres du Nouveau Testament. Parole de gloire en quelques mots s'adressant à Dieu ou au Seigneur Jésus. Il s'agit de Dieu ou du Seigneur Jésus, il ne s'agit pas de nous-mêmes. Voilà ce qui fait la valeur d'une doxologie. Le moi ou le nous en sont exclus. Ces doxologies sont au nombre de 14. La première est celle de la fin de Romains 11. Romains 11, connu de chacun, il est dit ceci, dernière parole du chapitre, à lui soit la gloire éternellement, amen. Au cours des épîtres, la seconde se trouve au chapitre 16 de l'épître aux Romains, la troisième dans l'épître aux Galates, etc. Et nous arrivons à la quatorzième, au début du livre de l'Apocalypse, où au verset 6e, à lui la gloire et la force au siècle des siècles, amen. Nous voyons donc que la teneur de ces quelques paroles d'adoration, la teneur est sensiblement la même. Paroles, nous le répétons, adressées à Dieu ou à notre Seigneur, mais s'il s'agit de nous, nous en sommes absolument exclus. Et c'est cela qui donne une valeur exceptionnelle à ces paroles de doxologie. Ces paroles ont été étudiées dans plusieurs assemblées, même en divers pays, et régulièrement avec beaucoup de bénédictions. C'est un sujet d'étude qui est certainement profitable et enrichissant, ce sujet des doxologies, à la condition que l'on commence par la première, qu'on suive l'ordre de ces doxologies, et qu'alors on exprime quelques pensées quant au contexte d'où naît la doxologie. Cela est important, évidemment, pour que l'on comprenne la raison de la doxologie. Dans notre passage, nous avons la septième doxologie des 14, et c'est celle-ci, auquel soit honneur et force éternelle, amen. Et combien nos actions de grâce, à l'heure du culte en particulier, nos actions de grâce gagneraient en puissance si nous avions devant nos yeux et devant nos cœurs sans cesse ces doxologies qui expriment une adoration en quelques mots, mais aussi quelques mots qui jaillissent du fond de notre cœur. En effet, un tel Dieu, qui montrera bientôt l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, et un tel Seigneur que notre Seigneur sont bien dignes de tout honneur et de toute force éternelle.
Je vais rentrer dans la richesse de telle doxologie. Qu'est-ce qui peut nous en faire connaître les profondeurs, toutes les vérités qui sont contenues dans des expressions que nous sentons insondables, que nous sentons bien insondables, puisqu'il s'agit des personnes divines. Qu'est-ce qui peut nous faire entrer là? Qu'est-ce qui peut? Ce n'est pas une étude humaine qui peut nous faire entrer dans ces choses. Absolument pas. Ça sera entièrement fermé. Entièrement fermé. Parce que Dieu s'adresse toujours à notre cœur et à notre conscience. C'est avec ça qu'il agit. C'est avec ça. Eh bien, qu'est-ce qui nous fera entrer dans ces choses? Les deux choses que nous avons. La nature divine. Si je n'ai pas la nature de Dieu, ça me sera complètement fermé. Je pourrais discourir sur ces choses, mais ça sera, elles n'entreront pas dans mon cœur. Parce que la nature de Dieu me met en relation avec Dieu et me fait jouir de ce qu'est Dieu. Et par conséquent, de ces doxologies qui nous brassent devant nous les gloires. Et quelle est la seconde chose? Celle de Saint-Esprit. Quand j'ouvre la parole, il y a deux choses que je dois faire. D'ailleurs, quand j'ouvre la parole, il faut que j'ai la pensée de trouver Christ. Il y a deux choses que je dois faire quand j'ouvre la parole, c'est de prier. De prier. Et avoir en moi, non pas d'enrichir mon intelligence, non pas d'acquérir une connaissance qui risque de m'éloigner de Dieu, mais avec ce désir de connaître Christ. Le psalmiste dit, et c'est ce que nous devrions, ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai de ces choses, ces doxologies, de ces pensées si élevées, si riches. Quand il y a dans notre cœur le désir ainsi de connaître, cœur de racheté, je dis, c'est pas le cœur d'un cadu, le cœur de Rostul, le désir de connaître le Seigneur, eh bien le Seigneur ne peut pas ne pas répondre. Pas répondre. Et c'est ce que nous avons à demander, que nous ayons faim, que nous ayons soif de ces choses. Et le plus grand danger pour qui justement nous prive de cette faim et de cette, c'est la distraction.
Peut-être une petite remarque qui ne manquera pas d'intéresser nos jeunes amis. La première doxologie citée, donc, c'est Romains 11. Nous allons seulement dire un mot de celle-ci et de la dernière, et voir quel est le cadre merveilleux à ces 14 doxologies. Dans la première, qui a connu la pensée du Seigneur, nous avons l'astérisque, c'est-à-dire que, comme la note liminaire l'indique au début de notre Bible, il s'agit là d'un nom que Dieu se donne à lui-même et qui correspond à Jéhovah, ou l'Éternel dans notre langue. Il n'y a que dans notre langue, paraît-il, que nous avons l'équivalent de Jéhovah, ce nom si prestigieux que Dieu se donne à lui-même à partir du moment, il faut bien le remarquer, à partir du moment où il est question de l'homme. En Genèse 2, nous n'avons plus Elohim, comme au chapitre 1er, en relation avec la gloire de Dieu dans sa création, mais au jour que l'Éternel Dieu s'occupe de l'homme, à partir du verset 4 de Genèse 2, nous n'avons plus Elohim, nous avons l'Éternel Dieu, Jéhovah Elohim. Et ce terme est répété 21 fois dans le chapitre 2 jusqu'au début du chapitre, jusqu'à la fin du chapitre 3. Toute l'histoire de l'homme est en relation avec ce nom nouveau que Dieu se donne à lui-même, Jéhovah, l'Éternel. Ce qui exprime, a-t-on dit, le caractère immuable de Dieu. Elohim, il s'agit de sa prééminence, de sa gloire éternelle en création. Mais lorsqu'il s'agit de son nom d'Éternel ou de Jéhovah, c'est la même chose. Il suffit de consulter Exode 6 et la note que donne notre traducteur. Dès qu'il est question de l'homme, Dieu souligne son caractère de fidélité immuable au conseil qu'il a conçu, qu'il s'est proposé en lui-même, relatif à Christ et à l'Église, caché évidemment dans l'Ancien Testament, vu en figure dans Ève. Mais ne nous étendons pas, il s'agit donc d'un nom que Dieu se donne à lui-même, nouveau, en relation avec l'homme, pour affirmer, pour maintenir qu'il est fidèle, qu'il est immuable, quant au conseil qu'il a conçu et qu'il accomplira en son temps, pour nous assurer que Dieu ne peut fléchir, ne peut faillir en aucune manière, prend ce nom nouveau. Ce n'est pas extraordinaire, pas remarquable, que la première doxologie se rapporte à ce nom, qui a connu la pensée du Seigneur, c'est-à-dire de Dieu, Jéhovah, l'Éternel, de l'Ancien Testament, qui prend ce nom dès qu'il s'occupe de l'homme. Et nous avons tout de suite la source, la puissance et le but qu'il poursuit, car c'est de lui, il est la source de tout ce qui constitue le bonheur de l'homme, il est la puissance, c'est par lui et c'est pour lui, il est le but en lui-même. Donc nous avons l'Éternel comme source, comme puissance et comme but, il fait tout pour sa gloire. Et la dernière doxologie, Apocalypse 1, comment tout cela s'est-il réalisé? Comment Dieu accomplira-t-il le propos de son cœur? Et quel est son caractère dominant pour l'accomplir? N'est-ce pas extraordinaire de lire cette dernière doxologie à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, Apocalypse 1, verset 6. Ce Dieu fidèle, immuable, qui s'est proposé pour lui-même ce conseil éternel en faveur de l'homme, c'est celui qui nous aime. Sagesse éternelle pour commencer, amour éternel pour terminer.
Si quand nous entendons ces choses si merveilleuses, ce qui doit arrêter nos pensées, nous des êtres finis, petits et rien, la manière dont Dieu, qui est infini dans ses pensées, infini dans son amour, infini dans tout, la manière dont Dieu se révèle à nous dans ces noms dont on vient de nous parler, pour que nous puissions ainsi être un peu amenés à comprendre, à saisir ce qui sera notre part éternelle. Et alors, quand on pense que Dieu prend soin de se révéler ainsi par des choses remarquables, combien c'est méprisé ce que Dieu nous donne dans sa richesse et dans sa bonté que de ne pas y faire attention ou de ne pas y arrêter nos cœurs. Faut que de telles choses, ça, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de cœur. Il faut que nos cœurs méditent sur ces choses et ainsi nous nous approchons de Dieu parce que lui s'est approché de nous.
Encore à propos de la louange, dans cette épître au verset 17 du premier chapitre, elle s'élève vers Dieu en relation avec la première venue du Seigneur dans le monde. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre, alors on peut dire or qu'au roi des siècles, soit honneur et gloire. Et ici, dans notre verset 16e, elle s'élève en relation avec son apparition, c'est-à-dire son épiphanie.
Remarquable de voir que tout l'enseignement de la première épître à Timothée est comme encadré par une doxologie, une double doxologie. À part, à la suite de ce que notre frère a dit, est-ce que le fait que cette première épître à Timothée commence par une doxologie et s'achève pratiquement par une doxologie, est-ce que cela aussi ne donne pas une importance particulière au sujet qui est développé tout au cours de la première épître? Au début, notre frère vient de le dire, il est question de la venue du Seigneur Jésus dans ce monde pour sauver les pécheurs. À la fin, il est question de son apparition, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre deux, le témoignage de l'Église ou l'Assemblée du Dieu vivant sur la terre. Est-ce que cet encadrement si glorieux ne donne pas, ne contribue pas à donner une importance exceptionnelle au sujet traité tout au cours de l'Épître, c'est-à-dire le témoignage d'une Assemblée qui marche dans l'ordre, c'est-à-dire à la gloire de Dieu? Nous arrivons à la fin de notre étude. Nous pensons qu'il est sage de terminer sur cette considération-là, à moins que vous ayez sur cette doxologie. L'épître se termine ensuite par une exhortation à l'endroit de ceux qui sont riches, ce qu'ils ont à faire pour la gloire de Dieu, et finalement une mise en garde à l'adresse de Timothée. Ô Timothée, fuis les discours vains et profanes, toute cette connaissance, ainsi science, ainsi faussement nommée, et la grâce est invoquée pour lui comme pour nous tous, pour que nous soyons capables de mettre tant soit peu en pratique les enseignements et les exhortations que nous avons entendus. Nos frères sur le plateau verrons s'il y aura lieu de continuer simplement ce chapitre 6 de la première épître à Timothée avant de passer au sujet de la deuxième. Cela est du ressort de nos frères sur le plateau.